n'était pas tout à fait prêt, vous allez me redire tout ça.
Non, non, ça tourne.
Déjà ?
Quelqu'un parle, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac, pouf.
Et alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite ?
Bah là-bas, Saint-Jacques.
En pèlerinage ?
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue à l'écoute de Caméra Subjective, le magazine dédié au cinéma que vous retrouvez tous les 15 jours à l'antenne de Radio G. Une émission préparée à 6 mains et 3 cerveaux, car il y a avec moi ce soir Véronique. Bonsoir Véronique.
Bonsoir.
Et Margot. Bonsoir Margot.
Bonsoir.
Alors au programme ce soir, la dernière lecture de Margot justement, Scarlett de François-Guillaume Laurin.
Oui, un roman qui, comme son nom l'indique, est consacré au rôle féminin le plus convoité de l'histoire du cinéma. Ce soir, je ne crains pas l'emphase, vous l'entendrez. Et le plaisir pour moi en tout cas, et peut-être pour vous, de replonger dans ce film fleuve, adapté du best-seller de Margaret Mitchell. Je parle bien évidemment de « Autant en emporte le vent ». Car, après tout, demain est un autre jour. Réplique culte à vie aux amateurs et amatrices.
Véronique a quant à elle préparé un agenda avec les actus ciné et les rendez-vous à ne pas rater. Mais avant cela, nous ouvrons notre émission avec notre invité, Simon Lehingue. Il est directeur du cinéma Jacques Tati à Saint-Nazaire et programmateur de cette salle qui est classée Art et Essai, labellisée Patrimoine, Recherche et Découverte et Jeune Public. Bonsoir. Bonjour Simon.
Bonjour Simon. Ah, Simon n'est plus en ligne.
Moi, j'ai bon espoir. On va tester, je ne sais pas. Peut-être il y a des histoires de micro. Simon, est-ce que vous nous entendez? On devient un peu ésotérique dans ces moments-là. Genre, esprit, es-tu là, etc. Pour l'instant, nous n'avons pas de chance. Et je suis au désespoir. Ah, Simon, là, j'y crois vraiment. Il faut répondre et il faut que ça marche. Sinon, on appellera au téléphone. On va écouter un titre, puis appeler au téléphone. On peut faire ça aussi.
On peut essayer ça, absolument.
Très bien. Je vais vous proposer d'écouter quelque chose. Je ne sais pas.
Ou l'agenda ?
Ouais.
On peut commencer par l'agenda cinéma. Comme ça, on va changer. Bouleversons notre programmation.
Quelle force, Véronique. Merci.
Je suis prête à vous transmettre mon agenda du jour. Parmi la richesse des événements ciné du moment, j'en ai choisi deux. Un qui se déroule demain soir et un autre ce week-end. Vous êtes passé à côté de la programmation foisonnante de la 34e édition du festival Premier Plan à Angers ? Eh bien, ce n'est pas grave parce que le tiers-lieu culturel, le 122, situé au 122 rue de la Chalouère, propose ce jeudi 3 mars à 19h de revivre la ferveur de ce grand moment de cinéma à travers des cartes blanches aux talents angevins qui ont été l'un des sels de l'édition 2022. Nous y retrouverons Cinéma Sprint, un événement organisé par François Gobert et Quentin Ménard qui permet de regrouper des professionnels et amateurs passionnés de cinéma pour créer un court film le temps d'un week-end. De l'idée au scénario, en passant par le tournage, le montage, tout doit être traité en 54 heures chrono. Quentin et François reviendront sur la dernière édition de Cinéma Sprint et présenteront les 5 films réalisés, le making-of et, cerise sur le gâteau, le dernier court-métrage que Quentin Ménard a tourné avec sa grand-mère, La vie n'est pas un jeu, qui a reçu la mention spéciale du jury au Nikon Film Festival. La soirée se poursuivra en compagnie du jeune réalisateur Nathan Villano qui a participé au concours Angers-Loire Minute Film organisé par Premier Plan. Son court-métrage, Plutôt courir, y a remporté le prix du public. Nathan nous présentera également son autre court-métrage, Le temps qu'on a, qu'il a déjà présenté cet hiver aux 400 coups. Nous rencontrerons ensuite le réalisateur Thierry Charrier qui présentera son documentaire L'atelier d'Isiaka. Le film suit avec une grande humanité l'autrice Isiaka Hanam lorsqu'elle était en résidence cet automne dans le quartier de la Roseraie à Angers. Elle y rencontre des femmes du quartier au cours d'ateliers d'écriture qu'elle anime. La soirée se terminera par la projection de courts-métrages d'animation réalisés par les étudiants de l'École supérieure d'art et de design d'Angers. Ces étudiants ont participé à l'atelier Drawing for Drawing mené par Mathieu Delalle, artiste enseignant, qui sera là pour présenter les films. Merci à William Noyer du tiers-lieu culturel Le 122 de mettre en valeur toute cette vitalité du jeune cinéma angevin dans ce lieu ouvert et chaleureux. Après cette très belle soirée, je vous donne rendez-vous ce week-end à Gênes-sur-Loire, ce magnifique village situé entre Saumur et Angers. Il s'y déroule un mini-festival qui s'appelle le Festival du film positif. Étonnant, non ? Eh bien oui, il s'agit d'un festival né en 2018 en réaction au contexte politique et social plutôt déprimant du moment et hélas, toujours d'actualité. Une dizaine de personnes de la compagnie Éoliarp se sont lancées avec passion dans l'organisation d'un festival qui fait la part belle aux expériences concrètes, humanistes et positives. Ils se sont inspirés du festival cinétique de Châtillon-sur-Seiche dans le 35. Pendant 2 jours, à Gênes, courts-métrages, documentaires et fictions s'enchaînent avec entre chaque projection des lectures de nouvelles positives, des notes d'accordéon, des pauses gustatives, mais aussi un baloche le samedi soir. Il propose même une partie de pétanque après la projection du film documentaire « Il était une fois dans l'ouest de l'Afrique » de Romain Potocki. Le film montre que le secret du vivre ensemble d'habitants d'une même place à Porto Novo, au Bénin, où se mêlent 4 religions et 7 langues, est, devinez quoi, la pétanque. Je vous conseille aussi « Microbes et gasoil » de Michel Gondry, réalisé en 2015. On passe un délicieux moment avec 2 amis ados qui décident de construire leur propre voiture avec quelques planches et une tondeuse à gazon pour partir sur les routes de France. Un appel à la créativité des ados pour inventer le monde de demain. Il y aura aussi un très beau documentaire, « La bergère des glaces » de Stanzin Dorje Gaya et Christiane Mordelet, qui nous emmène à 5600 mètres d'altitude sur les hauts plateaux de l'Himalaya à la rencontre d'une bergère qui s'occupe d'un troupeau de 300 moutons et chèvres pashmina. Voilà pour mes coups de cœur du moment. J'espère vous avoir donné envie d'y aller et j'espère maintenant surtout que Simon est à l'écoute de notre émission et que nous allons pouvoir échanger avec lui.
Merci beaucoup Véronique, tu nous as en effet permis de joindre Simon. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir Véronique, bonsoir tout le monde.
Bonsoir Simon, c'est Margot derrière le micro. Eh bien écoute, on a enfin réussi à te joindre, on est vraiment soulagés et on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu nous entends bien ?
Ouais, je vous entends très bien, j'espère que vous m'entendez bien aussi.
Tout à fait.
C'est parfait. Alors écoute, dans ce studio, nous sommes trois cinéphiles. Et je dois dire que tout autour de la table, on a vraiment envie de voir le bout de cette crise sanitaire. Et on avait surtout envie de t'écouter pour échanger sur la situation de l'exploitation cinématographique après 2 ans de pandémie. Et j'ai envie de dire autant de visionnage de films sur le petit écran d'un ordinateur, d'un téléviseur ou d'un smartphone. Alors on espère que tu vas avoir ce soir un regard plein d'espoir et une parole optimiste voire salutaire sur les nouveaux enjeux qui attendent les salles de cinéma. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais résumer brièvement ton parcours ?
Très brièvement, j'ai fait des études de lettres et j'ai approché le cinéma par le festival Premier Plan. J'étais très cinéphile, mais mon premier pied dans le monde professionnel était au festival Premier Plan, où j'ai été membre stagiaire de l'équipe de programmation pendant 1 an. Et puis après, j'ai fait de la distribution de films. J'ai travaillé pour une association de cinéastes qui s'appelle l'ACID, qui a une sélection au Festival de Cannes. Et un peu par hasard et par amitié pour une programmatrice de Saint-Nazaire, je suis parti sur la côte atlantique programmer le cinéma Jacques Tati dans cette belle ville de Saint-Nazaire. Alors, depuis 4 ans maintenant.
Depuis 4 ans. Et donc justement, est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots cette salle? Alors moi, j'ai eu l'occasion déjà de venir, et c'est une salle à la fois magnifique en termes d'architecture et puis évidemment en termes de qualité de projection. Où est-ce que c'est situé à Saint-Nazaire? À quel public est-ce que tu t'adresses?
Alors c'est historiquement c'est une salle qui n'était pas située là où toi tu es venu. Enfin c'est un cinéma ARS hein, depuis sa création qui appartient à la scène nationale de Saint-Nazaire. Donc il y a un théâtre et un cinéma. Le cinéma au début des années 90 programmait surtout des cycles le week-end. Voilà des cycles consacrés soit thématiques, soit géographiques, mettons le cinéma espagnol, soit monographiques. Voilà un week-end Jean-Luc Godard, etc. Puis, voilà, petit à petit, avec l'arrivée des multiplex, donc fin des années 90, début des années 2000, un multiplex s'est installé à Saint-Nazaire, a fait fermer absolument toutes les salles qui existaient. Hein. Il y avait 5 cinémas à Saint-Nazaire.
Ah oui.
Et le cinéma Jacques Tati est devenu la seule alternative en termes de programmation, disons, à la programmation commerciale du multiplex. Et voilà, petit à petit, il a ouvert 4 jours, 5 jours, 6 jours, et aujourd'hui, il est ouvert tous les jours.
Voilà. Et alors, quel est son lien avec la scène nationale, justement? Est-ce que vous faites... Il y a des partenariats, des passerelles dans la programmation, dans les publics?
Alors, c'est pas tout à fait la même temporalité. Hein. Les théâtres travaillent sur des saisons qui sont écrites très tôt, en fait, très en amont. Hein. Là, par exemple, la saison 2022-2023 est bouclée. Nous, dans le cinéma, on travaille de manière beaucoup plus afflux, beaucoup plus tendu. Voilà, on travaille d'un mois sur l'autre. Donc, finalement, c'est pas si simple de voilà. Ça arrive évidemment qu'on donne des cartes blanches à des artistes associés au théâtre. Voilà, il y a des choses qui se font voilà. Mais après, c'est deux activités qui sont séparées, en fait, différentes et qui ont leur propriété, quoi.
D'accord. Et alors, du coup, quel est le public de la salle de cinéma Jacques Tati?
Eh bien, comme toutes les salles ARS, je dirais que c'est un public plutôt âgé, majoritairement. C'est-à-dire, après, je sais pas, je connais pas de grands livres de sociologie sur la question, mais je pense que ça correspond à l'âge d'or de la cinéphilie en France, hein, les années 70-80, quand ces gens étaient jeunes. Ils allaient beaucoup, beaucoup au cinéma, quel que soit leur milieu social, et ils ont gardé, je pense, cette pratique, cette habitude, cette curiosité aussi pour les films en langue, en version originale, etc. Et moi, j'ai découvert ça. J'ai découvert qu'en fait, la variété sociale, enfin, comment dire, il y a beaucoup plus de diversité sociale à l'intérieur du public âgé, je dirais, oui, entre 55 et 70 ans, que dans le public plus jeune, où voilà, là, il y a une plus grande homogénéité sociale, quoi.
Bien sûr.
Bref, je suis un peu...
Non, c'est intéressant.
Un peu, mais c'est intéressant, ça, parce que je pense que ça correspond à une période du cinéma où, voilà, quand les gens avaient 20 ans, ils allaient voir des films brésiliens, ils allaient voir des films polonais, voilà. Et ils ont gardé, je crois, cette habitude de ne pas avoir peur des films étrangers en version originale, etc.
Et en même temps, si regarde votre programmation avec des propositions extrêmement variées, à la fois des films en sortie nationale, c'est-à-dire des nouveautés de la semaine, oui, et puis des cycles, on sent bien dans ce que vous dites, dans ce que tu dis, que c'est peut-être une tradition qui vient de la création de la salle, parce qu'il y a vraiment un certain nombre de cycles récurrents, et puis il y a des offres jeune public particulièrement bien travaillées, donc on sent quand même qu'il y a probablement une recherche de ta part, de la part de ton équipe, d'aller chercher ce public plus jeune, quels que soient ses centres d'intérêt et peut-être son origine sociale. Et puis il y a aussi le fait...
Oui, absolument. Non, bien sûr. J'ai fait une description après, disons qu'elle est un peu typique d'un cinéma ARS de ville moyenne ou de grande ville en France. Mais par ailleurs, ça ne nous empêche pas de travailler de manière d'arrache-pied. Je crois que c'est très important... d'aller chercher des publics plus jeunes, des gens plus jeunes. Et en fait, c'est assez marrant, c'est plutôt sur le cinéma de patrimoine que ça marche assez bien. D'ailleurs, quand on fait un cycle autour de Kelly Reichardt, un cycle autour, oui, d'Ozu, là on va programmer les films de Kinuyo Tanaka, cinéaste japonaise redécouverte
par Carlotta, enfin qui sont sortis par
Carlotta et par le Festival Lumière, le Festival de Locarno.
Ouais.
Voilà, là on voit que dans les salles, c'est plus divers en termes d'âge. Et puis j'ai eu à cœur, il y a une antenne de l'école des Beaux-Arts de Nantes qui s'est ouverte à Saint-Nazaire. J'ai tout de suite sauté sur les étudiants en disant voilà, faites un programmez des films, amusez-vous, programmez des films. Moi, j'encadre, disons, le comité de programmation, mais ensuite ils ramènent leurs potes, il y a les lycéens qui viennent, voilà, il y a une émulation qui se fait autour de la salle. Je pense que l'idée principale étant de dire, en fait, c'est votre salle de cinéma, il faut pas être effrayé par les films, il faut pas dire c'est pas pour moi, il y en a pour tout le monde. J'essaye qu'il y en ait pour tout le monde.
Oui, ça, je trouve que c'est vraiment une démarche tout à fait intéressante, parce que c'est vraiment un des enjeux de l'exploitation actuellement, c'est de faire revenir ce public qui peut-être, je sais pas si on l'a perdu avec la crise sanitaire ou si de toute façon on avait déjà un peu de mal à faire venir les jeunes en salle bien avant, mais en tout cas essayer de proposer une démarche plus participative, une intégration au cinéma d'un public plus jeune, ça me paraît être une réponse intéressante à cet enjeu de faire revenir le public jeune en salle.
Ouais, je pense que ça passera par une réinvention de la curiosité, quoi. Il faut qu'on réinvente. C'est un peu un travail collectif, c'est un gros travail, je pense. Mais je suis assez optimiste de ce point de vue. Je pense qu'il faut. Il y a une standardisation des œuvres. On le voit dans les salles plus commerciales, on va dire, pour le dire vite. C'est-à-dire les comédies françaises sont toutes les mêmes. Le système du cinéma américain, des représentations véhiculées par le cinéma hollywoodien sont standardisées. Hein. Enfin, d'une certaine façon. Et je veux dire, là, il va y avoir un besoin de
proposer d'autres regards.
Voilà. Je pense que ça passera encore par le cinéma. La série le fait très bien. Je pense qu'il y a une complémentarité en plus avec les plateformes. Moi, je suis pas du tout.
Alors là, on anticipe sur un débat sur lequel j'ai prévu de vous faire parler plutôt en fin d'entretien.
Ok.
En tout cas, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, dans ce que tu dis, c'est que d'une certaine manière, l'exploitation, c'est vraiment un maillon hyper central et assez visible de la chaîne du cinéma. Et pourtant, il me semble que les spectateurs n'ont pas forcément en tête la diversité de ton métier, celui d'exploitant, et peut-être que maintenant tu pourrais être un petit peu plus concret sur les coulisses de ton activité. Par exemple, on dit que le programmateur, c'est un métier du lundi matin. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce fameux lundi matin?
Je peux, mais alors c'est pas du tout ce que je fais, moi.
Ah, d'accord.
Alors le lundi matin, non, dans le métier d'exploitant, classiquement, je veux dire, la majorité des exploitants, voilà, les films sortent le mercredi, ils ont 5 jours pour faire leurs preuves, et le lundi matin, les séances des films sont renégociées. Voilà, ça, il faut l'expliquer aux gens. Dans la plupart des cinémas, ça se passe comme ça. On programme, là par exemple, il y a Batman qui sort aujourd'hui, Viens, je t'emmène d'Alain Guiraudy, Ali et Ava de Clio Barnard. Bon, ces trois films sortent, mettons, dans une salle, et ils font des entrées, et puis le dimanche soir, on a eu 5 jours d'exploitation, et le lundi matin, on se dit, bon ben, voilà, Batman a super marché, donc on lui remet le même nombre de séances. Guiraudy a pas mal marché, donc allons-y. Et Ali Ava a pas marché, je lui souhaite pas. Hein. Mais voilà, on va lui supprimer des séances. Ça se passe comme ça la majorité du temps. Moi, je fais pas ça, je programme au mois. Donc j'ai un programme qui dure un mois, qu'on imprime, oui. 16 pages tous les mois. Et voilà, comme ça, on grave dans le marbre le nombre de séances. Et voilà, c'est un truc de marché, quoi, de programmer le lundi matin. C'est
vraiment, oui, parce que le lundi matin, c'est une négociation avec les distributeurs dont le rôle est justement d'essayer d'obtenir le maximum de séances les mieux exposées pour diffuser leurs films. Mais alors, du coup, qu'est-ce que ça t'apporte à toi de programmer au mois? Est-ce que c'est pour te libérer le reste du temps? Est-ce que c'est pour être moins soumis au succès ou à l'échec d'un film? Qu'est-ce que tu mets dans cette pratique?
Oui, je pense que c'est un peu des deux. C'est-à-dire que déjà, ça permet de pas... Moi, j'aime bien l'idée d'avoir un programme. Je pense que les gens aussi... Déjà, je pense que ça, c'est important. Et après, en effet, je crois que les films, on fait le pari on leur donne toute leur chance. Je sais pas, et puis s'ils marchent pas, ils marchent pas. Et puis la semaine suivante, peut-être que des gens vont... C'est arrivé, en fait, qu'un film marche pas en première semaine et que finalement, en deuxième semaine, il y a plus de monde que la première. Et en fait, si je programmais au lundi, là, j'aurais pu faire disparaître le film. C'est un peu... Des fois, on se trompe, c'est pas grave, mais... Et puis, voilà, un programme, ça donne de la visibilité aux gens, ils peuvent s'organiser, ils peuvent voir ce qui arrive. Je trouve que ça... c'est une manière d'être moins frénétique quoi, dans l'actualité des sorties.
Bah oui, parce que c'est vrai qu'en ce moment, avec comme il y a eu beaucoup de sortes, enfin comme les salles ont été quand même fermées 10 mois sur 12, il me semble, l'année dernière, finalement, les distributeurs ont énormément de films à sortir. Et quand on est du côté des spectateurs, on a vraiment ce sentiment de frénésie. Et finalement, je me demandais, toi, du côté de la programmation, parce que même si tu programmes d'un mois sur l'autre, il y a quand même toujours autant de nouveautés qui te sont proposées. Et puis, il y a aussi des sorties de patrimoine, etc. Comment est-ce qu'on fait pour choisir? Qu'est-ce qui te guide dans ton choix dans cette offre pléthorique de bons films, hein? Parce qu'en plus...
Ouais, là, ça a été vraiment un crève-cœur, parce qu'il y a eu énormément de très beaux films qui sont sortis. À partir du mois de septembre, ça a été jusque maintenant, là. Ça a été une avalanche de films dont parfois... Souvent, on rigole sur le fait qu'il n'y a pas des chefs-d'œuvre toutes les semaines. Là, c'est arrivé, quand même.
Ouais.
Et du coup, on fait des choix. Il se trouve qu'il y a quand même un multiplex à côté qui en prend quelques-uns, mais en fait assez peu, et c'est difficile dans une ville qui est sous-équipée en écran comme Saint-Nazaire. C'est pas le cas d'Angers, par exemple. Vous êtes à Angers, vous êtes bien doté en termes d'écran.
C'est vrai que les 400 coups, il y a pas mal, il y a une dizaine d'écrans.
Il y a 7 écrans aux 400 coups et au pâté.
J'ai Véronique qui me fait les gros yeux à côté de moi. Effectivement, je ne connais pas par cœur le nombre de salles.
Il y en a 7 aux 400
coups.
Il y en avait 6 et je crois qu'il y a une 7e salle qui s'est ajoutée. Et voilà, là, il y a de quoi sortir les films. Moi, j'ai fait cette négociation auprès des distributeurs à l'automne de dire, écoutez, je vais exploiter les films sur moins de séances, mais j'aimerais faire droit au plus de films possible. Donc, on va réduire un peu la voilure et ça a été dans l'ensemble accepté.
D'accord. Voilà. Et par ailleurs, en fait, ce que tu proposes et qui est aussi que je trouve extrêmement intéressant et assurément propice à faire revenir des spectateurs peut-être un peu réticents en salle, c'est que c'est une programmation qui est, alors, au mois, donc avec une visibilité et puis probablement aussi une cohérence sur le mois. Mais en plus, on sent que très souvent, ces cycles, ils sont accompagnés par des rencontres, des conférences. Comment ça se passe, ça? Comment est-ce que tu l'organises? Comment tu le prépares? Comment tu le réfléchis?
J'ai cette habitude là, je sais pas, je trouve que c'est toujours plus intéressant quand quelqu'un vient raconter ce qui est. Au début je le faisais moi et en fait je trouve que c'est un peu, on peut pas tout gérer, on peut pas toujours travailler, il y a des spécialistes, c'est bien de les inviter, c'est bien aussi que les intellectuels ou les autres programmateurs viennent dans les salles amis. Voilà, depuis la réouverture on multiplie les rencontres, ça c'est sûr que là on est un peu sur les genoux quand même, mais en fait c'était important de dire attendez, voilà ce qu'on a perdu quand on a été fermé quoi. On a perdu tout ce lien, toute cette multiplication de rencontres. Non, moi c'est très important, il y a à la fois les rencontres sur les cycles, donc Kelly Reichardt, Paul Verhoeven, Maurice Pialat, on a fait des présentations, après il y a des avant-premières avec des réalisateurs, on a fait venir Radu Joudet, Ours d'Or à Berlin, Alain Guiraudy là très récemment. Voilà, je trouve que c'est important aussi quand on croit au film, quand on aime les films, de dire venez rencontrer. Enfin, et en fait ça marche, c'est-à-dire que quand le réalisateur vient, même si les gens sont pas venus à la séance, en fait ils en ont entendu parler, il y en a qui sont venus et en fait il y a une émulation autour du film et ça marche mieux en fait. C'est tout bête hein, mais quand quelqu'un vient dans la ville, prend le temps, surtout dans une ville comme Saint-Nazaire qui est un peu au bout de la France, qui est à côté de Nantes, et Nantes c'est quand même la grosse ville et Saint-Nazaire un peu l'oublié ouvrière. En fait, quand les gens y viennent, y compris des cinéastes étrangers, Johanna Hogg, Hassan Ferrani, etc., en fait, voilà, leur film, il marche ensuite.
Bien sûr, oui. Et puis d'autant que c'est une occasion de convaincre les gens de sortir de chez eux aussi, parce que c'est des moments totalement inédits et des projets de rencontre. Alors maintenant, pour parler plus sur l'aspect directeur de salle, quels sont tout bêtement les films qui marchent actuellement au Jacques Tati? Est-ce que c'est La Panthère des Neiges, par exemple?
La Panthère des Neiges a bien marché. Ben moi, je ne l'ai pas pris en sortie nationale, mais ça marche.
Ça fait deux mois qu'elle tient aux 400 coups, quand même, hein, La Panthère des Neiges. C'est pour ça que je pose la question.
C'est incroyable. C'est phénoménal en termes de recettes. C'est par ailleurs un peu inquiétant ce qui se passe de ce point de vue, parce que, en fait, c'était déjà le cas avant le Covid, mais il y a quand même des films qui absorbent toutes les entrées. Et là, ça s'est radicalisé de manière très flagrante. Je pense à Ouistreham de Emmanuel Carrère. Tant mieux hein, pour le film, c'est très bien, mais qui a eu un succès phénoménal. Et en fait, ça éclipse tous les autres films. Donc il y a Un autre monde de Stéphane Brisé qui marche très très bien aussi, très très fort. Mais très très fort, presque trop fort. Quoi. Il y a quelque chose d'assez bizarre, c'est que toutes les autres sorties, du coup, sont quasi inexistantes en termes
et pour
de...
ces trois films français dont tu me parles.
Ouais, c'est surtout le cinéma français. Oui. Après, il y a eu des contre-exemples. Il y a eu Compartiment 6 qui a très bien marché, film finlandais.
Qui a été défendu par Véronique dans l'émission. Donc, elle s'en va.
Un de mes coups de cœur de l'hiver. Ouais.
Et alors, quel bilan est-ce que tu tires, toi, après ces deux années si particulières, à l'échelle de ta salle, en fait ? Est-ce que tu es confiant sur l'avenir avec, on espère, la fin du pass sanitaire et en tout cas la fin du port du masque ? Est-ce que tu penses que tu vas avoir... tu attends le retour des spectateurs ?
En fait, ils sont revenus, les spectateurs. Mais je pense que c'est corrélé, c'est pas pour se jeter des fleurs, mais on a beaucoup travaillé. Et le problème, c'est qu'on a... Ouais. Enfin, disons que les gens sont largement revenus. Hein. On fait des entrées qui sont équivalentes à la meilleure année de référence.
Mais c'est une très bonne nouvelle, ça.
C'est une super nouvelle. Mais alors,
Faut beaucoup ramer.
Faut beaucoup programmer. Il faut beaucoup organiser de rencontres. Les films marcheront plus tout seuls. Enfin, je veux dire, j'y crois pas. C'est ça. À la fois, c'est la bonne nouvelle parce que ça oblige à poser tout le temps des questions sur. Sur comment on montre les films, hein. On peut plus je suis désolé de le dire comme ça, mais on peut plus programmer à la papa, on n'est plus dans les années 80, c'est fini en fait, ça c'est fini. Il faut
créer de l'événement, tu veux dire?
En même temps, on peut pas faire un festival permanent parce que sinon on s'épuise. Donc il va falloir trouver des solutions pour mais c'est ça qui est excitant aussi. Il va falloir trouver des solutions pour faire exister les films. On peut pas faire toujours des festivals. À Angers, c'est super, c'est que vous avez un festival magnifique sur lequel vous pouvez vous appuyer aussi, parce qu'il fait vivre et battre la ville de manière incroyable autour de premiers films. Ici, il n'y a pas trop ça, donc il faut...
Oui, mais enfin, on a quand même le sentiment, quand on regarde le programme sur le mois, que tu es extrêmement, très offensif, que c'est peut-être pas le festival permanent, mais il y a quand même des propositions de programmation qui sont presque de l'ordre du festival tous les mois, je trouve.
Oui, bah c'est ça qu'il faut trouver la solution pour
équilibrer là.
Pas s'épuiser, c'est ça le truc, mais je suis confiant parce qu'en fait les gens adorent ça. Je crois pas du tout que la salle est morte.
Alors justement, pour faire...
il y a un certain modèle qui quand même a des questions à se poser, mais voilà.
Alors juste pour terminer, j'aimerais revenir sur ce que tu commençais à aborder tout à l'heure et pour rebondir aussi sur est-ce que la salle la continue ou pas. C'est justement en tant qu'exploitant, on a écouté le discours de Arthur Harari au César qui déplorait en fait le poids de plus en plus important des plateformes dans la production. Alors évidemment, c'est à mettre en rapport en plus avec les modifications récentes de la chronologie des médias. On n'aura peut-être pas le temps d'aborder tout ça, mais toi, comment est-ce que tu te positionne en tant qu'exploitant par rapport à cette plateforme? Tu avais l'air d'être peut-être un petit peu moins méprisant, agressif, en tout cas vindicatif. Voilà, je cherchais ce mot-là que Arthur Harari pendant les Césars. Comment est-ce que toi tu te positionnes?
Moi, je trouvais que Arthur, il disait pas que ça, mais j'avais l'impression que son discours portait aussi sur le manque de courage des institutions culturelles.
Tout à fait.
Il attaquait frontalement la ministre de la Culture présente ce soir-là. Il faut mettre les plateformes autour de la table pour qu'elles crachent au bassinet. Enfin, faut le dire clairement, hein. Il faut qu'elle paye dans la production et qu'elle reverse. Enfin voilà, c'est un système de taxes qu'il faut imposer. Après,
système de taxes que j'ai quand même envie de préciser que tous les autres acteurs du cinéma y sont soumis. On n'est pas en train de proposer un truc bolchevique, c'est que c'est le cas. Le cinéma français s'autofinance parce que tous les diffuseurs, que ce soit des salles, que ce soit les éditeurs DVD, que ce soit les chaînes de télévision, actuellement contribuent. Par obligation légale au financement du cinéma français. Donc là, ça serait juste l'idée d'inclure les plateformes qui utilisent et qui diffusent des films dans ce système.
Exactement. Ce qu'elles sont en train de faire, d'ailleurs, sont en train d'accepter de faire, même si les Américains ont eu du mal à comprendre qu'ils devaient payer pour produire des choses auxquelles ils n'avaient pas accès en premier lieu. Donc bon, Netflix a eu un peu de mal. Mais ils vont y venir. Ils n'ont pas le choix. De toute façon, c'est un trop gros marché, la France, pour s'en passer. Donc, Après, sur la question des pratiques, disons, ça c'est une autre question. Et bon, moi je crois à la complémentarité entre les deux. Moi je suis un enfant de la VHS, j'ai vu plein de films chez moi, sur mon magnétoscope, j'ai enregistré des trucs, ça ne m'a jamais empêché d'aller au cinéma. Je comprends pas ce débat en fait, je le comprends pas. Je pense que la télévision n'a pas tué le cinéma, la couleur n'a pas tué le cinéma, le parlant n'a pas tué le cinéma, les plateformes ne tueront pas le cinéma.
Le numérique n'a pas tué le cinéma non plus.
Mais non, parce que non, après il va falloir effectivement que un certain type de cinéma, un certain type d'exploitation de cinéma, etc., vive ces dernières heures, peut-être. Je ne sais pas. Mais le voilà. Et après l'économie, il va falloir l'inventer aussi. Hein, mais
bon, en tout cas, oui.
En tout cas, il y a des films. Enfin, c'est génial quand Netflix achète Kiarostami. Évidemment, nous on est là, on boude un peu. Mais en fait, ça veut dire qu'il y a des gens dans le monde entier qui vont découvrir des films de Kiarostami. Bon, on peut pas dire que c'est horrible. C'est bizarre. Ce serait bizarre, quoi.
Bon, en tout cas, Simon, un grand, grand merci déjà pour ton enthousiasme et ton audace et ton goût du défi. Moi, je trouve ça rafraîchissant et génial d'avoir un exploitant aussi dynamique en ligne avec nous. Je ne peux qu'encourager nos auditeurs à se rendre un week-end pour se faire un bain de cinéphilie, en plus d'un bain dans l'océan, un bain tout court à Saint-Nazaire. Un grand merci, en tout cas, pour cet échange et longue vie à Jacques Tati.
À vous. C'était sympa de m'inviter, merci beaucoup.
Au revoir Simon, à très bientôt.
À bientôt.
Annette, we don't have long. I'll sing these words to you. I hope they will ring true. They're not some magic charm. Of this, I'm sure, imagination's strong, and reason's song is weak and thin. We don't have long. I stood upon a cliff, a deep abyss below. Compelled to look, I tried to fight it off. God knows I tried.
Forget you both.
And reason song.
Forget you both.
So faint and shrill.
C'était Sympathy for the Abyss, signé The Sparks, avec le casting du film Annette, un des titres de la fabuleuse BO du film de Léos Carax, récompensé par le César de la meilleure musique. Vous écoutez toujours Caméra Subjective, le magazine cinéma de Radio G, sur la fréquence 101.5 FM. Et on continue maintenant avec la chronique proposée par Margot.
Oui, ce soir, j'aimerais vous recommander la lecture du roman de François-Guillaume Laurin, Scarlett, qui s'intéresse au processus de production de Autant en emporte le vent, un véritable film fleuve, parce qu'il dure plus de 4 heures. Alors, cette production, elle s'est étalée sur plus de 3 ans, entre l'achat des droits d'adaptation du roman de Margaret Mitchell et la sortie du film en 1939. Le livre de François-Guillaume Laurin est découpé en très courts chapitres qui se dévorent de façon boulimique, tant l'auteur manie à la perfection le concept de page-turner. Et là, c'est pour la bonne cause, car au fil des pages se dévoile le fonctionnement des grands studios d'Hollywood à la période de son âge d'or et à l'aube de la Seconde Guerre mondiale qui sonnera bientôt le glas de tous ces moguls. Et la description de cet écosystème si particulier est franchement passionnante. Alors, à la tête de ces studios, des hommes qui sont tous ce qu'on appelle des self-made men, parce qu'ils sont arrivés pour la plupart d'Europe de l'Est au début du XXe siècle. Et ils ont acquis en quelques années un pouvoir phénoménal sur l'industrie du divertissement. Ils se côtoient, ils se détestent, ils se téléphonent et ils négocient tout âprement. Les comédiens, des accords de distribution, des locations de décors, du matériel, etc. Et on croise aussi, au fil des pages, Jack Warner, le fondateur du studio éponyme, Louis B. Mayer, le M de la MGM, et Samuel Goldwyn, qui en était le G, avant de quitter le navire MGM. Et au centre de tout, David Ocelnik, le producteur mégalo du film Autant en emporte le vent. Alors arrêtons-nous un peu sur ce personnage, qui est aussi fascinant que peu recommandable. C'est le fils d'un petit producteur de films. Il a fait ses armes à la MGM, où il a épousé la fille de son patron. C'est ce qu'il y a de plus simple, Irène Meyer. Ensuite, il a créé son propre studio qu'il mène à coups de bluff, d'audace, de multiples mémos à toute son équipe, et surtout d'un véritable flair pour les talents en devenir. C'est lui, par exemple, qui convainc un réalisateur anglais pas encore très connu, un certain Alfred Hitchcock, de venir à Hollywood réaliser son nouveau film Rebecca, que donc David Ocelnik va produire. C'est le seul qu'il va produire d'ailleurs. Dans toutes les pages du roman, David Ocelnik nous est présenté comme une sorte d'ogre, jamais rassasié de travail, d'idées ou de défis. Et celui d'adapter les 1000 pages du roman de Margaret Mitchell en est un de taille, croyez-moi. Alors justement, le livre de François-Guillaume Laurin relate avec force détails et anecdotes la longue route et les multiples obstacles qui ont précédé le triomphe du film. Un film qui quand même a récolté pas moins de 8 Oscars en 1940, dont celui de la meilleure actrice dans un second rôle décerné à Hattie McDaniel, la première comédienne noire à en être lauréate. Alors, parmi les embûches sur le long chemin avant la production du film, il y avait déjà la question du scénario. Comment adapter une épopée aussi riche, avec autant de personnages, de décors et de rebondissements? Et que faire surtout de la vision nostalgique, c'est le moins qu'on puisse dire, du Sud, que livrait Margaret Mitchell, qui elle était native de Géorgie? Comment rester fidèle à une œuvre qui a remporté un immense succès en librairie, tout en gommant un peu, autant que possible, le traitement assez condescendant, pour ne pas dire carrément raciste, réservé aux personnages noirs? Ce qui est intéressant, c'est de se dire que cette question-là, qui est vraiment très actuelle dorénavant, au point que certaines plateformes refusent de diffuser ce film, cette question-là se posait déjà, et David Ocelnik a reçu, ce que nous montre le livre, des tonnes de courriers avec cette dénonciation-là. Et puis surtout, il y a l'enjeu du casting. L'essentiel du roman y est consacré et on se délecte franchement des déboires de David Ocelnik dans ses négociations avec son beau-père pour récupérer le comédien Clark Gable, alors en contrat avec la MGM. Le plus grand défi pour le producteur, pourtant, c'est surtout de trouver un visage pour incarner la fougueuse Scarlett O'Hara, de débusquer la comédienne qui saura jouer avec passion, avec fraîcheur, avec fougue, avec énergie, ce personnage qui a fait vibrer toute l'Amérique. Alors, je ne vais pas vous raconter, évidemment, les multiples rebondissements de ce casting infernal et interminable, parce que c'est tout le sel du livre. Sachez simplement que c'est la comédienne britannique Vivian Leigh, elle aussi une inconnue, qui a finalement été retenue moins d'une semaine avant le début du tournage. il était temps.
Margot, je redonne les références de ce livre que tu nous conseilles. Scarlett, c'est un roman de François-Guillaume Laurin, publié en janvier 2022 par Flammarion.
Bien sûr, reconnu un extrait de la BO mythique, osons le terme, d'un film qu'il est tout autant et que sa bande-annonce de l'époque présentait déjà comme le film le plus attendu de l'histoire du divertissement moderne. Rien que ça.
Et nous sommes presque pas en retard, vous l'aurez compris, c'est l'heure de rendre l'antenne. Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission sans dessus, dessous, pleine de rebondissements. Le scénario était palpitant. Vous pouvez la réécouter en intégralité sur le site de Radio G, à l'onglet Caméra Subjective. Et dans quelques minutes ou quelques heures, il y aura les infos de tout ce dont on a parlé ce soir. Les titres des livres, les références vers les cinémas, etc. etc.
Tu vas mettre l'itinéraire pour aller au centre Jacques Tati de Saint-Nazaire.
Un itinéraire conseillé, c'est une excellente idée. On vous retrouve dans 15 jours, même heure, même antenne, avec un focus, il me semble, bande-annonce. Ai-je dit une bêtise ?
Tu t'es un petit peu avancée, mais nous allons essayer de faire ça, absolument.
J'ai peur de rien ce soir, sinon ce sera un autre rebondissement. On vous donne rendez-vous dans 15 jours. Bonne soirée, bonne séance.
Au revoir.
Au revoir.
Radio G. 101.5 FM.
In eurem Unser gab es uns noch nie. Eure kurzen Beine gehen uns bis zum Knie. Seid ihr noch nicht dran?